8h22 sur France Culture, on évoque la justice et il en a été question d'ailleurs, Ludovic, hier dans l'intervention du chef de l'État sur TF1 hier soir. Écoutez un extrait de ce qu'a dit Emmanuel Macron, nos invités, le magistrat Denis Salas et ma camarade de la rédaction, Florence Tourme, écoute le chef de l'État.
S'est installée une forme de pratique où celles et ceux qui sont en situation illégale sur notre territoire peuvent être contrôlés plusieurs fois. Parce qu'on s'est habitué à l'incapacité de les reconduire à la frontière, on ne prend plus toutes les mesures qui doivent être prises. Eh bien, cela va changer. D'abord parce que, à loi constante, nous prendrons des mesures plus dures. On va faire ce qu'on doit faire. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Dès demain, les premières dispositions seront prises. Au début d'année prochaine, une nouvelle loi en matière justement d'asile et d'immigration sera prise pour durcir les règles sur ce point. Et nous nous mettrons en situation d'être intraitables sur ce sujet.
Denis Salas, votre réaction ?
Je suis frappé de la confusion des places qui ressort de ce discours. C'est-à-dire que là, une mesure de jugement d'un délit ou d'interdiction de séjour relève du juge, si vous voulez. C'est la base d'un système démocratique à partir de faits qui sont identifiés et d'une peine qui est individualisée. On ne peut pas considérer que le politique peut, dans des situations particulières, décider d'expulser de manière générale, tous les individus qui sont susceptibles de commettre des délits ou de se comporter d'une manière antisociale. Donc il y a là une confusion des places dans le propos de M. Macron, la place du droit, la place du juge, la place du respect des droits individuels est absente.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va rester purement verbal comme annonce ?
Ça veut dire que c'est une annonce.
Oui.
C'est une annonce.
Et rien ne changera.
Ça veut dire qu'il y aura une pression faites sur les acteurs de terrain qui auront ce discours politique en fond de leur attitude et que effectivement il y aura heureusement un débat judiciaire dans chaque cas où on décidera ou pas de sanctionner tel individu ou de l'expulser, mais ce sera à chaque fois un débat judiciaire qui sera décisionnel et non pas une décision politique.
Mais alors, ce qu'on ne comprend pas très bien Denis Salas, est-ce que ce débat hier, il n'avait pas lieu ? Est-ce qu'il y avait chez les magistrats du laxisme, puisque c'est évidemment cette accusation qui est sous-entendue dans le discours d'Emmanuel Macron hier, vous étiez laxiste ?
Non, je pense que dans l'histoire d'Emmanuel Macron, c'est plutôt la préfecture qui aurait commis une erreur.
En tout cas, la chaîne judiciaire.
La chaîne administrative-judiciaire, maintenant tout est mêlé, vous savez, on ne distingue plus trop les uns et les autres. L'habitude de pointer la faute sur l'administration pour exonérer le discours politique de toute responsabilité, on l'a bien connu dans un passé assez proche avec Nicolas Sarkozy. On a l'impression que le disque se répète un petit peu, là.
Oui, mais... Donc si le disque se répète, vous, qu'est-ce que vous lui répondez au disque ?
Ben, je lui réponds qu'il ne faut pas confondre les places et qu'il faut respecter une décision de justice qui doit effectivement intervenir dans un cas particulier et que si la loi intervient, elle peut intervenir et durcir, comme le dit l'annonce Emmanuel Macron, les conditions d'expulsion, il n'empêchera pas que le juge aura son mot à dire dans chaque cas.
Autre sujet, mais... toujours le même thème, celui du terrorisme, puisque finalement aujourd'hui la justice est sommée de répondre à la question de la sécurité des Français avec un procès qui est un procès que vous suivez, Florence Turme, celui du frère de Mohamed Merah qui est actuellement jugé. Cela fait 2 semaines. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous résumer ce procès, nous dire un peu où on en est ?
Alors, où en est-on ? Alors, cette semaine, on va aborder, la question de la famille, puisqu'ils vont venir les uns et les autres défiler à la barre, en tout cas ceux qui sont encore présents sur le sol français, puisque le père d'Abdelkader Merah est en Algérie, qu'on pense que sa sœur Souad, qui a essayé de partir en Syrie, est aussi réfugiée en Algérie avec ses 4 enfants. Donc, semaine de la famille, on va voir défiler le frère aîné, celui qui a été très médiatisé par la marche contre la radicalisation,
donc lui
par ce livre.
A dit qu'il était profondément hostile.
Voilà, lui a dit cela. Il y a d'autres éléments qui, pour le moment, semble un peu controversé sur un certain nombre de de sujets le concernant. On va voir ça aujourd'hui. Donc la semaine de la famille, cette famille qualifiée de dysfonctionnelle où la violence règne en permanence. Mohamed Vera, finalement, c'est l'éducation par la violence et tout ce qui en a découlé par la suite. Donc nous avons derrière nous deux semaines de débat où on a abordé la personnalité d'Abdelkader Mera, mais sans entrer dans le fait religieux qui est pourtant constitutif quelque part de l'infraction qui lui est reprochée. Nous avons abordé les faits, mais avec des moments d'émotion intense, quasi insoutenable, quand il a été question du meurtre, de l'exécution des enfants notamment. Mais ces faits, on sait très bien que Abdelkader Mera, qui est dans le box des accusés, n'y a pas directement, en tout cas, participé. Aujourd'hui, donc, ce qu'il s'agit d'établir, il y a deux choses qu'il s'agit d'établir dans ce procès qui vont fonder le verdict et la décision des magistrats professionnels. C'est un, la complicité d'assassinat pour tous les meurtres qui ont été reprochés, qui ont été commis par Mohamed Merah. Est-ce qu'il y a complicité de son frère? Et à ce stade, cette complicité n'a pas été juridiquement démontrée. On sait qu'il a assisté au vol du scooter. On sait que ce vol du scooter, maintenant, n'a pas été prémédité puisque les clés étaient sur le scooter. Donc, il n'y a pas préméditation, y compris de la part de Mohamed Merah. Et Le deuxième élément, c'est l'association de malfaiteurs dont vous avez parlé d'ailleurs en première partie de ce débat avec Denis Salas. Cette association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui peut effectivement, que parfois certains professionnels considèrent comme une notion un peu fourre-tout et dans laquelle on peut entrer un certain nombre d'éléments. En l'occurrence, là, on a des éléments concrets concernant Abdelkader Mera. Mais du coup, ces deux premières semaines d'audience renvoient aussi à une question fondamentale. Comment peut-on juger le terrorisme aujourd'hui? Et la question, c'est quel choix? Peut-être qu'on peut poser cette question directement à Denis Salas. Quel choix les magistrats professionnels ont-ils aujourd'hui dans ce procès, dans ces 5 semaines de procès, face à des victimes, face aussi à une pression politique? Quel choix ont-ils? Est-ce qu'ils ont la possibilité, et c'est avec beaucoup de précautions que je mets ça, mais est-ce qu'ils auraient la possibilité de ne pas condamner Abdelkader Mera?
On pose la question à Denis Salas.
Alors, il faut absolument dire, par rapport à ce qu'on a dit en première partie de l'émission, où on constatait un évanouissement du droit ou de l'état de droit, que l'état de droit, il est là. Il est au procès Mera. Il est en cour d'assises actuellement. Il est visible par tous. Vous avez un homme qui n'est pas l'ennemi du genre humain, comme on le présente souvent les terroristes, qui est un justiciable, qui a droit à un avocat, qui est présumé innocent. Le président l'a dit en ouverture des débats. Il y a un débat contradictoire.
Il a fait 5 ans de préventive. Hein.
Je suis d'accord. Mais dans le cadre...
Donc pour un présumé innocent...
C'est un débat qu'on peut avoir.
Ce sont des choses qui arrivent.
Mais effectivement, on est bien d'accord. Et son co-auteur aussi. Mais je voulais simplement dire que le cadre de l'état de droit est posé. On évoquait tout à l'heure...
Je vais vous poser 2 questions naïves. Il a fait 5 ans de préventive, ce qui n'est pas rien. S'il est déclaré innocent, et cela posera un certain nombre de questions à la justice. C'est tout le sens du discours de son défenseur, Maître Dupont-Moretti. Deuxième question, il est jugé par des magistrats professionnels. Qu'est-ce que ça change sur la manière dont celui-ci va être jugé?
Sur les 50 détentions provisoires, il y a, comme l'a dit Florence Turme, il y a, si vous voulez, 2 choses. Il y a la complicité, qui effectivement se discute beaucoup actuellement, mais il y a aussi l'association de malfaiteurs criminalisée, qui pèse très très lourd en arrière-plan dans les débats, et qui justifie que des investigations très nombreuses, nationales et internationales, permettent de le laisser en détention jusqu'à cette date-là. En tout cas, c'est un débat qu'on peut reprendre. Sur la cour d'assises spéciale, moi je trouve qu'effectivement, je l'ai vu fonctionner dans d'autres procès récemment, on ne peut pas dire que c'est une juridiction d'exception. C'est une juridiction où des magistrats sont choisis, non pas pour leur spécialité en matière de terrorisme, mais pour leur compétence générale. Ce ne sont pas des comme les sections spéciales antiterroristes, des gens qui sont effectivement dans le métier et l'antiterrorisme. Ce sont des juges, je dirais, ordinaires, des assesseurs qui sont des civilistes, qui n'ont pas, si vous voulez, cette appétence pour ce genre de dossier. Et d'après ce que j'ai pu observer, le questionnement est extrêmement présent et le souci d'avoir une preuve effectivement la plus convaincante possible et très présente dans ce cas-là.
Et puis il faut peut-être rappeler l'origine qui est récente de cette cour d'assises spéciale. Nous sommes en 1986, le procès d'Action directe, et l'un des accusés se met à menacer quasiment nommément les jurés populaires qui composent la cour. Les jurés se font porter pâle les uns après les autres et le procès est arrêté, faute, j'allais dire, de combattants, de jurés qui ne veulent plus venir parce qu'ils sont menacés. C'est à ce moment-là que la cour d'assises spéciale, chargée de juger des affaires de terrorisme, est constituée avec un certain nombre d'autres lois qui vont suivre.
Et alors, aujourd'hui, pour continuer à présenter ce procès Mera, vous l'avez dit en partie, Florence Turm, il est démontré que le frère de Mohamed Mera était... complice, alors c'est vous qui allez justement nous dire ce qu'il en est, mais les points sur lesquels porte aujourd'hui l'accusation semblent de plus en plus fragiles. Expliquez-nous aujourd'hui où on en est sur la connaissance donc qu'avait le frère de Mera du projet criminel de son frère.
Alors il faut surtout commencer par ne pas perdre de vue que nous n'en sommes pas encore à la moitié du procès. Donc un procès, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Ce procès-là, il va durer 5 semaines. C'est une autre question. D'ailleurs, est-ce que ce procès devait être aussi long dans le temps pour juger les faits auxquels ils correspondent? Il y a certainement une notion politique derrière,
une notion politique.
C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait prendre une semaine ou deux seulement pour juger une affaire de cet ordre-là, compte tenu de l'importance émotionnelle. Et là, on va revenir, à la question de la place des victimes aussi, du nombre des parties civiles, de l'émotion qu'elle a suscitée, du fait que les attentats commis par Mohamed Mera sont fondateurs pour la suite, ensuite, de ce qui va se passer, des autres attentats de Daesh. C'est le premier acte, on va dire, d'une certaine manière. Donc, pour répondre à votre question, à ce stade des débats, on a effectivement des perquisitions qui sont chez Mohamed Mera, où on a des disques durs qui correspondent avec des éléments qui sont des éléments qui montrent qu'il est dans un islamisme radical et même plus, puisqu'il y a des éléments venant d'Al-Qaïda qui sont des sortes d'indications, si vous voulez, des sortes d'indications sur comment faire, comment agir sur les territoires.
Le mode opératoire. Donc là, on parle de Mohamed Mera.
Non, on parle d'Abdelkader. On parle d'Abdelkader Mera sur les perquisitions qui ont été faites. On trouve aussi des anachides, donc ces chants religieux qui sont incantatoires, incitatoires, qui peuvent accompagner la préparation des attentats. C'est quelque chose qu'on n'a pas complètement encore abordé, ces perquisitions. On ne les a pas encore fouillées.
Mais les éléments matériels, ils ont été établis.
Les éléments matériels, encore une fois, les éléments matériels, ils sont apportés dans un procès et c'est le procès qui détermine, je parle sous votre contrôle, mais qui va déterminer si oui ou non ces éléments matériels ont lieu, sont fondateurs du crime, de l'infraction, du délit constitué.
On va poser la question au magistrat Denis Salas. Si on a donc la preuve aujourd'hui que ce monsieur a sur son disque dur des éléments sur le mode opératoire d'un attentat, des chants qui doivent accompagner un attentat, est-ce qu'il y a matière à le condamner ?
Absolument, absolument. C'est ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le disque dur peut être éloquent de ce point de vue-là. Les propos tenus dans les écoutes téléphoniques en particulier, volonté de faire le djihad, etc., etc. L'affiliation à des groupements terroristes, on sait que Abdelkader Mera était très très impliqué dans le réseau de Toulousain. Tout ça effectivement est présent dans son Facebook, dans son disque dur, dans beaucoup de choses. Je voudrais dire simplement par rapport à la preuve, on parlait tout à l'heure des notes blanches. J'ai remarqué dans ce procès...
Ces notes, juste pour rappeler...
Ces notes blanches qui sont des preuves, en quelque sorte, particulièrement sommaires, présentées par les services secrets pour obtenir l'assignation à résidence ou une perquisition. Bon. Là, on a, pour bien montrer la différence entre la manière dont le judiciaire travaille et la manière dont les services secrets travaillent, on a passé une journée sur le vol du scooter à partir duquel Mohamed Mera a commis son forfait. Une journée sur un vol de scooter pour savoir si le frère était au courant, etc. Vous l'avez dit. C'est une précision d'une lenteur extraordinaire et les parties civiles, il y en a 250 dans ce procès, et l'avocat de la défense ont eu leur mot à dire là-dessus. Donc, vous voyez le niveau de preuve exigé à un niveau de détail pour obtenir effectivement une preuve qui serait effectivement convaincante. Rien à voir avec les notes blanches.
Denis Salas, plus généralement, est-ce que ce procès témoigne d'une indépendance du parquet? Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on voit bien que Mohamed Merah ne peut pas être jugé. On a affaire à un procès du terrorisme. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une volonté de la part de la justice, de la part... du parquet également, de montrer que malgré tout, la République n'est pas inerte face à ces crimes.
Ah, ben, elle l'a démontré d'une certaine manière déjà. Quand, après les attentats de janvier, le parquet de Paris a décidé de criminaliser les associations de malfaiteurs en relation avec les entreprises terroristes. C'est-à-dire que jusque-là, c'était un tribunal correctionnel qui était compétent, avec 10 ans d'emprisonnement encourus, et là vous criminalisez parce que vous estimez effectivement que ces individus qui ont des projets terroristes ne peuvent pas ignorer effectivement les conséquences qui s'y attachent. Donc criminaliser, c'est-à-dire perpétuité à l'arrivée, donc ça change complètement la configuration de la
peine. Y compris d'ailleurs pour aujourd'hui, toutes les personnes qui rentrent de Syrie, leurs dossiers sont systématiquement criminalisés alors qu'ils pouvaient être jusqu'à présent renvoyés
donc
devant
une politique pénale.
La nouvelle garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qu'a-t-elle dit à ce sujet? Qu'est-ce que vous savez sur son point de vue?
Là, en l'occurrence, ceux qui sont à la manœuvre, ce n'est pas le garde des Sceaux, disons-le clairement, c'est le parquet de Paris, antiterroriste, qui a une autonomie grande dans ce domaine-là et qui a décidé, effectivement, avec l'accord du siège, évidemment, de passer à l'action pour saisir les cours d'assises spéciales. Donc, il y a là, le garde des Sceaux n'est même pas impliqué dans les réformes législatives en cours qui sont pilotées par le ministère de l'Intérieur. Donc, si vous voulez, il y a là une dilution de l'action qui se reporte vers le ministère de l'Intérieur et vers le parquet antiterroriste.
Un autre procès Denis Salas a été évoqué récemment, c'est le procès dit du quai de Valmy où des personnes ont été impliquées, 9 personnes impliquées dans l'attaque d'une voiture de police en marge d'une manifestation interdite le 18 mai 2016 avec des condamnations jugées par certains comme étant extrêmement lourdes et par d'autres comme étant la preuve qu'il fallait que justice soit faite lorsque les forces de l'ordre étaient attaquées. Là aussi, que pensez-vous de ce procès?
Bon, c'est un procès en cours, il y a un appel, donc je ne peux pas non plus rentrer dans les détails, mais ce qui est frappant de voir, c'est, moi je dirais, 2 choses qui m'ont frappé. La première, c'est l'usage du témoignage anonyme des policiers, qu'on retrouve effectivement dans le procès Merah, un témoignage anonyme en particulier d'un fonctionnaire des services secrets qui semble être déterminant dans la conviction de la culpabilité de certains des mises en cause. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas une discussion à avoir sur l'anonymat des policiers dans ce domaine-là? Est-ce que le débat contradictoire n'en souffre pas? Je pense que oui, en partie. Il appauvrit le débat contradictoire. Il empêche une discussion directe avec les avocats. C'est un vrai problème. Mais en même temps, les policiers...
Un vrai problème, c'est-à-dire?
Un vrai problème sur la qualité du débat, si vous voulez, et sur la gestion de la preuve et sur la conviction de la preuve. J'en termine. La deuxième chose, c'est le rôle des images. Dans ce procès, le rôle de la voiture incendiée, le rôle du policier qui a été, tout ça impacte considérablement par l'effet de sidération le procès lui-même.
Florence Turme.
Et sur un sujet que vous avez longtemps réfléchi avant même les questions de terrorisme qui se posent aujourd'hui, je pense que la question de la place des victimes se pose plus que jamais dans ces affaires de terrorisme.
Fondamental. Je dirais, elles attendent ce moment. 250 parties civiles, je le disais, dans le procès Merah. Il y a une attente de donner un sens à leur malheur, pour le dire d'une manière un peu brutale, mais c'est quand même cela qu'il s'agit, une attente d'explication. Elles ont demandé elles-mêmes, Maître Maurice l'évoquait l'autre jour, de visionner les cassettes que Merah, le film que Merah a fait sur les attentats, si vous voulez. Donc il y a vraiment une attente cathartique très très forte de la part des victimes de ce procès. Est-ce que le procès pénal est fait pour ça? C'est une grande question qu'on abordera peut-être une autre fois.
Autre question, la réforme de la justice qui a été lancée le 6 octobre dernier au palais de justice de Nantes par le Premier ministre Édouard Philippe et la garde des Sceaux. Comment jugez-vous ce chantier?
Là, il y a plusieurs projets, plusieurs réformes qui sont programmées.
Alors, il y a notamment donc la création de 15 000 places en prison.
On le savait déjà, puisque Jacques Voas avait déjà engagé le budget là-dessus. Certaines mesures inquiètent, la réduction des tribunaux, la carte judiciaire, supprimer certaines cours d'appel, nature a inquiété un peu les
magistrats. Mais ça n'est pas non plus une grande nouveauté. Disons que le projet, lui, est peut-être nouveau dans le détail des suppressions, mais au bout du compte, le sens de l'histoire, à tort ou à raison, semble être de rassembler les lieux de justice dans un certain nombre de villes et donc de fermer.
Oui, ça s'est beaucoup fait déjà avec les pôles, avec. Mais en même temps, si vous voulez, vous savez, le souci d'une proximité de la justice à l'égard du justiciable, qui me semble quand même être un service public qui doit être facilement accessible et non pas disséminé ou éparpillé. Il y a beaucoup d'autres projets. Le sens de la peine fait partie aussi des mesures, de la réflexion de la ministre. La numérisation des procédures fait aussi partie. Tout ça participe d'un projet qui comporte plusieurs volets, dont on verra peut-être dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, le détail.
Est-ce qu'il est aujourd'hui possible de se faire une opinion sur ce qu'Emmanuel Macron veut en matière judiciaire, Denis Salas ?
Il a deux grandes idées, en tout cas au moment de la campagne électorale, qu'il avait beaucoup soulignées. L'une que je viens d'évoquer, à savoir la numérisation des procédures, qui est une idée extrêmement, extrêmement intéressante parce qu'elle peut effectivement mettre à disposition des partis directement leurs dossiers sans se perdre dans les dédales de la gestion des procédures, de l'administration des procédures. Et la deuxième idée, c'était qu'on retrouve dans la question des étrangers l'idée d'une exécution immédiate, d'une exécution des peines qui ne soit pas diluée dans le temps, qui soit relativement rapide, immédiate, qui ne donne pas le sentiment à l'opinion publique qu'il y a une impunité à l'égard de certains crimes et délits, si vous voulez. Et ça, effectivement, c'est un projet qui me semble devoir être réfléchi.
Et la simplification des procédures civiles, puisque là aussi, l'une des idées qui est dans l'air, qui n'est pas seulement dans l'air depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est le fait de dire que la justice, c'est trop compliqué.
Oui, ça, c'est quelque chose qui est très très présent depuis toujours. On a déjà le divorce sans juge, qui est quand même une mesure qui va faciliter les choses pour le justiciable ordinaire, en quelque sorte. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut que nous avancions. Mais parallèlement, le droit est de plus en plus complexe. Donc il faudra simplifier des procédures avec un droit qui se complexifie. C'est un vrai challenge.
Mais est-ce que justement le droit doit être aussi complexe ? Alors on l'a vu notamment pour le droit du travail, où là, ce sujet a été amplement commenté. Certains disent qu'il faut simplifier les droits, d'autres disent que la démocratie et sa complexité s'accompagnent nécessairement d'un droit complexe.
Oui, je crois qu'il ne faut pas faire de cette simplification un argument qui va résoudre magiquement la complexité du droit. Il faut aussi faire confiance aux médiateurs, que sont les juristes, les avocats, les professionnels, pour mettre à la disposition des justiciables, des instruments d'action qui leur permettent d'agir efficacement et décomplexifier un droit qui, par lui-même, est inintelligible pour le commun des mortels, le droit du travail parmi d'autres.
Denis Salas, on a l'impression que Nicolas Sarkozy et François Hollande, dans des registres différents, mais au bout du compte, de la même manière, ont mis les magistrats en colère. Et cela s'est mal terminé dans les deux cas. Est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron, Nicole Belloubet, sa garde des Sceaux s'y prennent mieux ?
Pour le moment, il n'y a pas de friction entre le monde judiciaire et le monde politique. Je pense que c'est plutôt dans la... Je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, dans la culture politique, celle d'Emmanuel Macron, mais celle de la classe politique tout entière, qu'il faut regarder. Et il faut effectivement considérer que cette classe politique doit intégrer la dimension du droit comme étant un facteur de l'action politique, qui effectivement est un facteur de contrainte, hein, c'est certain, mais qui doit être aussi un facteur de démocratie au cœur même de l'action politique.
Reste à savoir si les magistrats vont intégrer la dimension politique de leurs actes. Je pense tout à l'heure, vous avez dit non.
Ils tiennent effectivement à tenir leur place et à intégrer le droit dans l'action politique et pas seulement l'évacuer. Mais c'est un dialogue qui doit intervenir sans se jeter des anathèmes réciproques qui ne mèneraient à rien.
Merci à Florence Turm et à vous, Denis Salas. Je rappelle votre dernier livre, La volonté de punir, essai sur le populisme pénal, paru chez Hachette.